place publique.
Un clitoris géant sur un rond-point neuchâtelois, un bec à la joue, un courbet qui lance une chasse au trésor dans le canton du Jura. Quand l'art agite les foules et s'empare de l'espace public, nous en parlons ce soir, dans Place Publique justement. Nous entendrons l'artiste à l'origine de ce fameux clitoris géant et nous élargirons la question avec Christine Salvadet, chef du service jurassien de la culture. Ce sera aux alentours de 18h45. On va également s'intéresser à la place de la justice. Après le refus du nouvel hôtel judiciaire à la Chaux-de-Fonds, on se pose la question de la localisation du troisième pouvoir. Faut-il séparer ou rassembler les juges et le ministère public? Comment les procureurs peuvent-ils collaborer avec la police judiciaire? Quelle organisation est la plus efficace et comment y sensibiliser le public? Nous y reviendrons avec les premiers intéressés. Nous recevrons Pierre Aubert, procureur général du canton de Neuchâtel, Valérie Corta, procureur général suppléante au ministère public jurassien, et Alain Schweingruber, avocat et député jurassien PLR, auteur d'une motion pour réunir la police judiciaire et le ministère public. Nous les retrouverons après le flash de 18h30. Mais avant ça, direction l'Espagne. Bienvenue dans Place Publique.
Jusqu'à 19h, Place Publique. Cédric Adrovert.
Les jours se suivent et la tension ne faiblit pas en Catalogne. Violence populaire, grève, joueurs de foot qui prennent position et ce référendum organisé dimanche par les séparatistes. Un scrutin interdit qui a quand même eu lieu avec ce bilan. Une centaine de blessés, 90% d'opinions favorables et une situation plus tendue que jamais avec une déclaration d'indépendance qui pourrait être annoncée ce soir par le président catalan. Pour revenir sur ces événements, nous sommes en direct avec notre correspondant en Espagne, Pierre Querol. Bonsoir.
Oui, bonsoir Cédric.
On va d'abord, si vous voulez bien, revenir sur le résultat, 90%. Quelle valeur accorder à ce résultat en Espagne?
Bah écoutez, c'est comme l'histoire du verre plein et du verre vide, ça. Ça dépend comment vous le regardez. Bah, si vous êtes un indépendantiste farouche, vous trouvez que c'est formidable, que c'est merveilleux et que les gens ont bien fait leur travail, si j'ose dire. Et en revanche, si vous êtes un constitutionnaliste éprouvé, eh bien alors à ce moment-là, vous dites que c'est un scandale, qu'il y a eu un détournement de la loi et qu'ils ont utilisé le référendum pour faire en sorte que l'illégalité triomphe, quoi. Donc, on peut pas répondre à cette question directement. En tout cas, pour eux, pour les indépendantistes, c'est à l'évidence un énorme succès. Il faut dire, Cédric, tout de même, que Madrid a tout fait pour empêcher ce référendum. Quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire non seulement la police, mais aussi la justice, les intimidations. Vraiment, ils ont tout employé pour empêcher les indépendantistes de tenir ce référendum. Et malgré ça, donc, les indépendantistes, les séparatistes ont eu 90%, à peu près 2 millions de voix, ce qui est énorme. Il faut avoir même un vrai courage pour aller dans la rue voter dans des urnes dont on ne savait même pas où elles allaient être. Ils ont quand même démontré une certaine détermination, Cédric.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, la situation reste tendue. Hein, ce référendum n'a pas calmé grand monde, notamment suite aux images de violences policières qui ont fait le tour du monde. Hier, c'était une journée de grève, une action qui a mobilisé. Même le FC Barcelone ne s'est pas entraîné, ça c'est plus anecdotique, mais tout de même. Oui. Est-ce que 3 jours plus tard, la situation s'est quand même un peu apaisée ou pas du tout?
Écoutez, à l'heure où nous parlons, il faut croire, Cédric, comme d'habitude, que vous avez le sens de l'information. À l'heure où nous parlons, il y a un mot qui n'arrête pas d'être prononcé ce soir, c'est le mot de médiation. De tous les côtés, on dit « Ah, il faudrait une médiation », alors que jusqu'à présent, on parlait de dialogue. Tout le monde disait « Il faudrait tout de même qu'il y ait un dialogue entre les autorités centrales de Madrid et puis le gouvernement catalan ». Donc là, il n'est plus question de dialogue, parce qu'évidemment, les indépendantistes n'ont pas envie de dialoguer. Ils estiment qu'ils ont été volés, c'est le cas de le dire, pendant des années. Ils ne veulent pas dialoguer avec le pouvoir central. Mais en revanche, ils accepteraient peut-être une médiation. Alors Pablo Iglesias, qui est le leader d'extrême-gauche, vous savez, cet homme à la queue de cheval, Pablo Iglesias a ce soir proposé à Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, et à Puigdemont, le Premier ministre catalan, de chercher une médiation. Alors, quelle médiation, vous allez me demander? Ben, je n'aurais pas à vous répondre, et personne ici à Madrid ne pourrait vous répondre, car on ne sait pas, mais beaucoup murmurent que ce pourrait être l'Église catholique qui pourrait essayer une médiation. Vous savez, les Catalans sont très croyants, et il n'est pas impossible, effectivement, que l'archevêque de Barcelone fasse la médiation entre Madrid et Barcelone. Encore une fois, on n'en est pas là. Il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Je vous livre ça parce que c'est tombé il y a 10 minutes. Donc ça, c'est la possibilité qui est évoquée en ce moment. Et puis, la deuxième chose, c'est que tout de même, ce soir, à 21h, le fameux président Puigdemont doit faire lui aussi une allocution. Quand je dis lui aussi, c'est parce que le roi d'Espagne, à son tour, la veille, hier donc, avait fait déjà une allocution à 21h à la même heure. Donc, vous savez, tous les jours à 9h, on a un rendez-vous institutionnel maintenant ici en Espagne. Donc, le roi a parlé hier pour pas dire grand-chose entre vous et moi. Et puis, enfin, on peut l'évoquer, si vous voulez, Cédric. Donc, le roi a parlé hier. Et puis aujourd'hui, donc, c'est Pouche d'Amante qui monte au créneau et qui dit « je vais parler ». Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? Officiellement, il va d'abord donner les résultats du référendum, parler de ces 90% que vous venez d'évoquer. Mais va-t-il dire autre chose ? Va-t-il annoncer cette fameuse déclaration unilatérale d'indépendance qui fait tellement peur à Madrid ? Car la prochaine étape, normalement, du point de vue des indépendantistes, c'est cette déclaration unilatérale d'indépendance. Donc, on en est là, si vous voulez, ce soir, c'est vraiment au tournant, à un carrefour de l'information.
Pierre Guérol, je vous propose d'écouter maintenant un expert en la matière, parce que vous l'avez déjà évoqué, la question de l'avenir se pose. On nous sommes entretenus avec un spécialiste des questions indépendantistes, il s'appelle Vincent Laborderie. Il est maître de conférences à l'université de Louvain. Il a étudié de près et depuis longtemps la situation catalane. Il est notamment spécialisé dans les conditions de reconnaissance internationale d'un État indépendant. On lui a demandé s'il avait été surpris par les événements de ces derniers jours.
Les événements de dimanche, oui, c'est-à-dire la violence policière, l'intervention de la police directement comme ça, le jour du vote, de cette manière-là, ça m'a surpris, je pense que ça a surpris beaucoup de monde. Par contre, l'attitude du gouvernement espagnol ces derniers jours, on s'y attendait globalement, c'est-à-dire une volonté d'empêcher ou de plutôt contrarier le référendum par tous les moyens.
Est-ce que cette situation où on a deux fronts très distincts, elle peut aujourd'hui permettre d'avancer ?
Non, clairement pas. Logiquement, le président catalan va annoncer probablement ce soir qu'il y aura une déclaration d'indépendance dans les prochains jours. Après ça, la suite encore une fois logique, c'est que le gouvernement espagnol décide de mettre fin à l'autonomie de la Catalogne, comme la constitution espagnole le permet. Et voilà, et là, une fois qu'on est parti dans cet engrenage-là, c'est pas trop ce qui va arriver, mais en tout cas, rien de bon pour la résolution du conflit.
Aujourd'hui, est-ce qu'une Catalogne indépendante vous semble le scénario le plus probable à terme ?
Non, parce que devenir vraiment indépendant, ça implique beaucoup de choses. Ça implique surtout d'être reconnu au niveau international. Or, la Catalogne n'aura pas de reconnaissance internationale, en tout cas pas de la part de la plupart des États européens et certainement pas de l'Union européenne en tant que telle, puisque pour être reconnu par l'Union européenne, il faut être reconnu par l'ensemble des États membres. C'est quelque chose de très hypothétique, c'est plutôt de l'ordre de la symbolique ou de la menace, et ça peut être très dommageable à la stabilité de la Catalogne et de l'Espagne.
Il y a un scénario crédible qui peut quand même amener cette région de l'Espagne à obtenir son autonomie ?
Le plus probable serait plutôt qu'on reprenne une négociation sur d'autres bases et qui se finira peut-être par un référendum sur l'indépendance, mais dans quelques mois, quelques années, probablement avec d'autres acteurs.
Pierre Guérol, on vient d'entendre Vincent Laborderie, assez pessimiste sur la situation actuelle et la capacité d'avancer sur ces bases-là, sur ces fronts qui sont très tranchés. C'est une opinion répandue en Espagne, celle-ci ?
Écoutez, les gens sont... En tout cas, je ne sais pas si les gens sont inquiets, mais en tout cas, ils ont peur, oui. Les gens sont même paniqués à l'idée... Quel que soit le bord où ils se situent d'ailleurs, qu'ils se situent en faveur de l'indépendance, ils se demandent vers où ils vont, car c'est tout de même un grand saut vers l'inconnu si jamais ça se faisait. Quant à ceux qui sont contre l'indépendance, alors eux, ils sont extrêmement inquiets, et ils se demandent eux aussi ce qui va pouvoir se passer. Et ce qui est très inquiétant au-delà de tout ça, Cédric, à mon avis, c'est que les gens, quand le gouvernement espagnol parle de séparation, d'antinomie entre les deux communautés, il n'a pas forcément tort. On arrive à un stade où les Catalans et les Madrilènes, enfin les Espagnols en général, en sont presque à se détester. C'est-à-dire qu'on a des scènes, par exemple la police espagnole dans les rues de Barcelone ou dans les rues de petits villages autour de Barcelone, la police espagnole est conspuée par les Catalans qui leur demandent de partir au cri de « dehors, dehors, rentrez chez vous, police d'occupation ». Car c'est ainsi qu'elle est qualifiée, la police espagnole en Catalogne. Donc si vous voulez, le creuset qui était déjà très fort depuis des années entre l'Espagne et la Catalogne se creuse un peu plus depuis cette intervention des forces de police espagnoles que vous rappeliez dans vos titres tout à l'heure, qui a fait des dizaines et des dizaines de blessés. Alors vous me direz que peut-être, effectivement, le gouvernement catalan a fait bien ses relations publiques, que les bonnes photos ont été publiées dans les bons journaux et que ça a dû probablement éveiller encore plus que ça ne l'était l'opinion publique internationale. C'est probablement vrai. Il n'y a peut-être pas eu autant de blessés que le gouvernement catalan l'a dit, mais l'attitude des forces de police, ça, les gens l'ont vu sur leur télévision et ça a augmenté, accroissé encore, je vous dis, cette haine
un clivage
pour le pouvoir à Madrid qui a été cristallisé donc sur ces images.
Merci en tout cas, Pierre Quirol, pour votre éclairage. On vous réentendra évidemment lorsque la situation va évoluer, peut-être bien après 21h ce soir. Bonne fin de journée à vous en Espagne.
Oui, on va voir ce que va dire Puigdemont dans quelques heures maintenant, oui.
Sous quel toit doit travailler la justice? La question reste entière dans le canton de Neuchâtel après l'échec du projet de Nauge en votation dimanche 24 septembre, mais aussi dans le Jura où une réflexion est en cours à ce sujet. Dans le canton de Neuchâtel, on a tenté en vain de tout regrouper, tandis que dans le Jura, on réfléchit à revenir partiellement en arrière après la réunion du ministère public et des juges au château de Porrentruy. Le troisième pouvoir à la vie dure en matière de logement s'est ainsi dans l'arc jurassien. Pour en parler, nous recevons ce soir Valérie Corta, procureure générale suppléante au ministère public jurassien. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également Alain Schweingruber, avocat, député PLR jurassien, auteur d'une motion acceptée au Parlement pour réunir le ministère public et la police judiciaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Pierre Aubert, procureur général du canton de Neuchâtel, avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir. Pierre.
Oui, on vous entend, Pierre Aubert, bonsoir. On va démarrer avec vous, Pierre Aubert. Vous étiez un partisan du projet de nouvel hôtel judiciaire refusé par le peuple. Qu'est-ce que vous attendiez, vous, de ce projet?
Alors, j'étais un partisan mitigé au départ parce que, comme je l'expliquais, l'idée d'un regroupement de toutes les autorités judiciaires n'était pas un projet de l'autorité judiciaire elle-même, mais il a été plus ou moins imposé à l'époque par le Conseil d'État à la suite d'une consultation un peu hâtive sur ce point. Mais le projet qui a été préparé, alors il faut dire de manière très étroite, entre le service des bâtiments et le pouvoir judiciaire a fini par remporter les suffrages de la plupart, car c'était vraiment un bon projet qui permettait de résoudre la plus grande partie des problèmes que nous avons maintenant en matière d'exiguïté de locaux, de sécurité, de dispersion, si bien que c'était... Finalement, nous avons fini par nous ranger à l'idée, pas tous les magistrats, mais la majorité, à l'idée de cet emménagement à la Chaux-de-Fonds dans un site unique qui était, vu la qualité de ce site.
Travailler avec les juges, dans le même bâtiment que les juges, ça aurait eu un gain, un avantage pour vous?
Alors, la proximité entre le tribunal et le ministère public, au fond, ne présente pas beaucoup d'intérêt, parce que le nombre d'audiences auxquelles le ministère public participe est relativement faible. Mais le projet tel qu'il était conçu, qui était en fait composé de 3 tours du premier étage des salles d'audience du tribunal, faisait que nous n'aurions pas eu le sentiment d'être dans le même bâtiment. Il n'y avait pas d'entrée commune, il n'y avait pas de passage d'une tour à l'autre, de sorte que c'est à peine si on se serait croisé sur le parvis de temps en temps.
Dans le Jura, procureur et juge travaillent sous le même toit depuis plus de 5 ans. Valérie Corta, vous, quel bilan vous tirez de cette cohabitation, de ce regroupement?
La cohabitation avec les instances judiciaires se passe bien, mais comme le disait mon collègue Pierre Aubert tout à l'heure, en fait, on se croise très peu. Il y a très peu de contacts, on se rend finalement assez peu en audience devant les tribunaux. Et puis, l'essentiel de notre collaboration, du point de vue du ministère public, évidemment, c'est avec la police judiciaire qu'elle se déroule. Donc, le bilan n'est pas mauvais, simplement, le besoin actuel du ministère public, c'est de collaborer plus étroitement avec la police judiciaire.
Concrètement, en quoi travailler de manière plus étroite avec la police judiciaire serait plus pratique pour vous? Vous avez un exemple, sans évoquer une affaire précise, mais un exemple concret pour qu'on comprenne bien?
Oui, je pense qu'on aurait des gains en efficacité, on aurait des gains en réactivité, en sécurité aussi, hein, pour le ministère public. Par exemple, si vous prenez une affaire relativement simple, un vol quelque part, l'inspecteur va prendre très très rapidement contact dès les tout débuts de l'enquête avec le ministère public. Il va peut-être demander un mandat d'amener, un mandat de perquisition. À la suite de cela, si nous étions dans le même bâtiment, peut-être qu'on verrait l'inspecteur revenir avec les saisies qu'il a effectuées, avec le prévenu. Il irait en audition avec le prévenu. On pourrait, puisque nous serions dans le même bâtiment, aller voir le prévenu, lui décerner une ordonnance pénale. Je pense que ce serait une bonne justice parce que tout serait fait dans le même jour. Aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On ne voit pas, par exemple, parfois on ne voit pas les saisies qui ont été effectuées dans une affaire, si c'est une affaire simple. On ne nous amène pas toujours les personnes pour leur discerner l'ordonnance pénale. La quasi-intégralité du temps, les ordonnances pénales sont décernées par voie écrite, par courrier. Je pense que ce serait bien qu'un justiciable entende le procureur lui expliquer quelle est la peine qu'il lui inflige et pourquoi. Et puis enfin, en termes de sécurité, ce serait un gain, parce que si le ministère public pouvait travailler dans des locaux où il y a une présence policière, naturellement, on serait quitte de demander une présence policière, elle serait sur place, et en termes de sécurité, pour nous, ce serait un gain aussi.
Alain Schwenk-Rubert, on l'a dit, hein, vous êtes l'auteur d'une motion pour réunir la police judiciaire et le ministère public, motion acceptée en fin d'année passée par le Parlement jurassien. Vos arguments étaient ceux qu'on vient d'entendre, ceux de Valérie Cortat ?
Oui, je n'ai pas inventé cette intervention. Je lis chaque année le rapport du tribunal cantonal où figurent de manière récurrente les préoccupations du ministère public de dire qu'effectivement, ils sont à l'étroit. Les procureurs sont à l'étroit dans leurs locaux et ils souhaitent un rapprochement géographique immédiat avec la police judiciaire. Alors, vous aurez compris que ma motion ne demande pas le démantèlement de la justice jurassienne, mais je parle uniquement du ministère public par rapport à la police judiciaire. Au château, actuellement à Pont-Rotrui, il y a tous les tribunaux de première instance, le tribunal cantonal, cela n'est pas du tout remis en question.
Des locaux trop petits, une efficacité qui est difficile à trouver. Pierre-Robert, on imagine que ça résonne aussi chez vous, où la justice est disséminée sur 8 sites différents dans le canton de Neuchâtel. Une situation pas idéale sur bien des points, des locaux peu sécurisés également, un manque de salles de réunion, des victimes et prévenus qui se côtoient devant les salles d'audience. Aujourd'hui, la situation actuelle, après le refus du Noge, elle est tenable longtemps, selon vous ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle tenable par rapport à d'autres pays, on est sans doute favorisé, mais par rapport aux exigences de courantes, notamment du public, effectivement, la réception des parties dans les tribunaux n'est pas excellente. Les conditions de travail des juges et des procureurs sont plutôt bonnes de manière générale, mais effectivement, notamment pour ce qui est des procureurs, on doit passablement se déplacer. Par exemple, vendredi, je dois examiner une affaire économique avec un commissaire qui est à la Chaux-de-Fonds, je monterai à la Chaux-de-Fonds en voiture pour aller discuter de tout ça avec lui. Il est vrai que si on était un peu plus voisins, on gagnerait du temps et ça se fait assez souvent. Pour les tribunaux, il y a quand même aussi un avantage à n'être pas trop regroupé parce que vous avez aussi une plus grande facilité d'organisation quand vous n'êtes pas trop nombreux. C'est ce qui fait que les juges de première instance dans le canton de Neuchâtel n'étaient pas tous acquis à ce groupement. Sous un même toit, c'est que lorsque vous êtes 22 juges à travailler ensemble, évidemment, la répartition du travail et l'organisation générale prend un certain temps, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes 5 ou 6, on s'organise beaucoup plus à la bonne franquette.
Aujourd'hui, il faudra trouver un nouveau projet dans le canton de Neuchâtel. C'est quoi les critères les plus importants pour vous ?
Alors, je pense qu'on arrivera... il y a une urgence qui est au tribunal de Neuchâtel, parce que la ville a résilié les baux pour les bureaux des juges, donc il faudra bien qu'on les loge quelque part, et il faudra trouver un endroit proche de l'hôtel de ville, ce qui n'est pas évident. On avait eu quelques difficultés en 2011 à le faire. Pour le ministère public, il est probable que d'ici peu, on procédera à un regroupement, enfin on trouvera une solution pour regrouper au moins une partie du parquet régional de Neuchâtel, qui même lui est éclaté en deux. Mais l'urgence principale, c'est le tribunal de Neuchâtel. La deuxième urgence, je dirais que c'est le ministère public, et puis, en tout cas, parquet régional de Neuchâtel. Et ensuite, on verra les opportunités qui se présenteront. La situation est vivable, bien qu'elle soit, on soit sans possibilité d'extension aucune, ce qui est toujours un peu problématique.
Valérie Cortat, dans le Jura, une situation vivable, mais sans possibilité d'extension, ça correspond également à la situation dans le canton du Jura ?
Oui, je pense que c'est exactement ce que nous vivons. Les possibilités d'extension ne sont pas infinies, elles n'existent plus dans le château de Pont-Rotrui. Et puis le ministère public, dans la mesure où des modifications devraient avoir lieu, souhaite se rapprocher de la police judiciaire. Il faut comprendre que nous travaillons vraiment ensemble au quotidien, sur les mêmes affaires, en même temps. Donc une fois qu'on a dit ça, on a compris qu'on a besoin de collaborer et d'être ensemble.
Alain Schwenk-Rubert, on entend les procureurs. Pour l'avocat, mis à part des questions de trajet, ça a été un argument lors de la campagne du Noge. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ?
Non, pas fondamentalement, nous nous sommes habitués. Il y a eu beaucoup de discussions à l'époque du regroupement de toute la justice au château de Porrentruy. Tout le monde n'y était pas favorable. Maintenant, c'est une chose acquise. On a l'habitude. Moi, je voyage quotidiennement, quasi quotidiennement, Porrentruy, retour sur Delémont. Ça pose pas de problème avec les tunnels, pour autant, évidemment, qu'ils soient pas trop encombrés. Mais c'est une autre affaire.
D'un point de vue politique, la motion avait été mise en stand-by en attendant le vote de Moutier. Le 18 juin est passé. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le 18 juin est passé, là, votre motion était en stand-by, on attendait le vote de Moutier dans le canton du Jura. Aujourd'hui, on en est où ?
Alors, j'avais posé la question à Mme la ministre de l'Intérieur assez récemment, respectivement en début d'année. Elle nous avait indiqué que le projet de restructuration du ministère public et de la police judiciaire était momentanément en stand-by jusqu'au vote de Moutier. Je sais qu'actuellement, il y a un groupe de travail qui fonctionne sur cet objet et que les travaux ont été repris. Donc je pense qu'on aura bientôt des nouvelles de la part du gouvernement.
La situation idéale, le projet idéal, ce serait quoi pour vous ?
Une localisation d'un site unique, je ne dis pas où, il ne m'appartient pas de le dire.
Moutier pour rentrer, vous n'allez pas trancher.
Écoutez, non, je crois que c'est au gouvernement de nous faire des propositions, de faire des propositions au Parlement. À Moutier, on pourrait imaginer éventuellement d'y mettre le tribunal des mineurs, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé de tout bouleverser.
Un dernier mot peut-être pour vous, Pierre-Aubert, l'exemple de Châtelois montre que la politique, le pouvoir judiciaire et la population, en tout cas sur l'exemple du Noge, ont eu de la peine à se fédérer autour d'un projet digne de ce nom. Comment est-ce qu'on l'explique ? Qu'est-ce qu'on a fait faux ? Comment on l'explique alors que la justice est quand même un fondement de notre démocratie ?
Moi, je pense que l'erreur psychologique de départ, c'est que pour emporter l'adhésion sur un site unique auquel, en fait, on était peu préparé, puisque tous les travaux de la commission de réorganisation avait opté pour deux sites, le Conseil d'État avait demandé une étude qui arrivait de manière un peu hâtive à un projet de 20 à 25 millions. Et puis les gens se sont focalisés là-dessus, et quand ils ont su que c'était 48 millions, ils ont eu le sentiment de s'être fait un peu berner, ce qui n'était pas tout à fait faux. Il faudrait être nuancé, mais on n'a pas le temps de l'être là. Mais les chiffres étaient violemment en opposition, et je pense que c'est un des éléments qui a dû pousser les référendaires à lancer leur référendum. Tandis que si on avait dit dès le début, le projet, ça sera entre 40 et 50 millions, mais il représente quand même une économie par rapport à la situation actuelle, ce qui est vrai. Il est bien possible qu'on aurait quand même admis cette idée de centralisation et qu'au moment où le projet aurait été présenté, il aurait été mieux avalé par le public que ce qu'il a été, où on a eu le sentiment que les coûts avaient doublé, qu'il n'y avait pas de maîtrise, et que ce qui n'était pas tout à fait juste, mais l'apparence était mauvaise de ce point de vue-là.
Le toit de la justice, un sujet dont on va encore forcément beaucoup parler, autant à Neuchâtel que dans le canton du Jura. Merci à vous trois d'être venus donner votre point de vue. Pierre-Aubert, procureur général du canton de Neuchâtel, Valérie Corta, procureur général suppléante du canton du Jura, et Alain Schwein-Grubert, avocat et député PLR jurassien. Bonne soirée à tous les trois.
Merci à vous.
Bonne soirée, merci.
Et on va poursuivre cette émission avec l'art qui ne cesse de déchaîner les passions. Deux exemples récents, différents mais avec des points communs, montrent que l'art est toujours vivant au XXIe siècle. L'engouement du public sur les réseaux sociaux autour d'un tableau inédit de Courbet donné au canton du Jura et l'installation d'une sculpture représentant un clitoris sur le rond-point de la gare de Neuchâtel. Pour en parler, nous allons recevoir la chef de l'Office de la culture du canton du Jura, Christine Salvadet. Bonsoir.
Bonsoir.
On va d'abord parler de ce projet neuchâtelois, ce clitoris géant qui a agité la presse, les politiques et les réseaux sociaux. Morceau choisi, Neuchâtel tombe bien bas, très ridicule, une honte, ou encore avec plus d'emphase, qu'ont fait les braves neuchâtelois pour devoir subir ce qu'ils sont en train de vivre. Vu d'un canton voisin, quel regard vous portez sur cette polémique ?
Bon, écoutez, disons que la provocation dans l'art est assez habituelle et elle est historique, hein, puisque ça fait très longtemps qu'on provoque avec l'art. Alors la provocation pour la provocation n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que l'artiste a voulu dire à travers son œuvre, et c'est ça qui peut susciter les questionnements, nous remettre en question et puis être intéressant justement.
Donc vous n'avez pas été surprise par ces élans, cette indignation, notamment sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui
alors,
vous a pas...
Alors d'abord j'aimerais savoir qui s'indigne, parce que je suis passée l'autre jour à Neuchâtel à une heure de pointe.
C'était calme.
Je n'ai pas vu beaucoup de voitures qui faisaient quatre fois le tour du rond-point pour regarder l'œuvre en question. Je n'ai pas beaucoup vu d'étudiants qui remontaient de l'université pour aller prendre leur train et qui s'arrêtaient et qui se questionnaient. C'est peut-être justement ça qui est intéressant en fait, de savoir... Finalement, cette œuvre, elle a fait parler d'elle avant d'exister. On a vu des images de synthèse dans la presse. On a évidemment nommé l'organe et donc l'œuvre d'art clitoris. Alors c'est ça qui a fait débat avant l'œuvre elle-même. Mais quand on la regarde, cette œuvre, en fait, combien de personnes savent exactement ce qu'elle représente? Qui se pose la question de savoir ce qu'a voulu dire l'artiste, justement, pourquoi il a choisi un matériau qui est le polystyrène, qui n'a rien à faire avec effectivement la représentation réaliste d'un clitoris. Pourquoi est-ce que on l'a voulu le représenter en fait à peu près 10 fois plus grand que ce qu'il est réellement, et de sortir cet organe intime, secret du corps de la femme au milieu de la place publique? C'est toutes ces questions-là qui font finalement l'intérêt d'une œuvre d'art. Quoi.
Des questions également soulevées par l'artiste, on va l'entendre, restez avec nous, Christine Salvadé. Mathias Pfund, qui a donc été invité par le collectif d'artistes neuchâtelois à Smallville. Pour lui, cette sculpture ne serait pas trop controversée, sa nature n'avait pas été révélée, comme vous venez de le dire, elle serait passée inaperçue comme tant d'œuvres du même style. Écoutez.
C'est aussi une pièce qui est assez cohérente avec certains de mes autres travaux, c'est-à-dire que j'explore passablement la modernité sculpturale abstraite, donc ces sculptures qui sont souvent dans l'espace public, souvent dans des formes curvilignes, organiques. Et donc, il y a aussi cet éclairage-là qui est très important dans ce travail pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que si, tout d'un coup, l'information que c'est un clitoris n'est pas dévoilée, tout d'un coup, les gens prendraient ça, j'imagine, comme une sculpture abstraite normale. Comme par exemple, il y en a à Neuchâtel avec André Ramseyer ou Claudine Grisel.
Son but est donc de faire connaître l'art moderne abstrait, selon lui, trop peu connu de la population.
C'est quelque chose qui est relativement singulier. Hein. En tout cas, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus quelque chose de purement gratuit. Enfin, l'idée, ce n'était pas non plus d'afficher quelque chose de frontal uniquement pour provoquer ou choquer. Après, bien sûr, s'il y a des émotions et des débats que ça peut susciter cela, moi, je suis très content.
L'aspect physique de cette œuvre provoque de nombreuses réactions. L'artiste genevois de 25 ans en est quand même conscient. On retrouve une dernière fois Mathias Pfund.
Certaines réactions sont très virulentes, d'autres assez positives. Au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout d'un coup, une sculpture abstraite dans l'espace public, tout d'un coup, elle puisse susciter autant de discussions. En fait, c'est quelque chose qui est chouette, puisque d'habitude, en fait, ces sculptures, personne ne les regarde. Hein. En tout cas, elles font partie d'un mobilier abstrait familier, et en général, on ne prête pas trop attention à elles.
Voilà une interview réalisée par Caroline Banvart. On vous retrouve, Christine Salvadé. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, comme Mathias Pfund. Provoquer, ça fait partie de l'art aujourd'hui. Est-ce qu'il faut provoquer pour être visible du plus grand monde, notamment en termes de mobilier urbain?
Non, je pense pas. Je pense qu'il faut susciter le questionnement. Il faut que, d'abord, il faut l'art, c'est la relation entre l'objet et puis le spectateur. C'est se donner du temps, effectivement, la possibilité de lever ses yeux de son smartphone pour regarder ce qu'on a en face de soi. C'est se poser la question de savoir, effectivement, qu'est-ce que cet art suscite en moi, et quelles sont justement toutes les questions que je peux me poser, moi, en regardant une œuvre d'art. Ça, c'est la mission de l'artiste. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ça se passe dans l'espace public. Parce que, une chose est d'organiser une exposition dans un musée, on paye son billet ou pas, hein, parfois c'est gratuit, mais on fait la démarche d'aller au musée pour voir des œuvres d'art. Dans l'espace public, c'est autre chose. C'est l'art immédiat. Hein. Cette œuvre, elle s'appelle d'ailleurs Instant Pleasure, ça veut dire plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'on a vraiment provoquer, alors là, oui, dans le sens premier du terme, le regard du spectateur avec cette œuvre d'art. Donc, on allait chercher le public, qui n'est pas forcément le public habitué de l'art contemporain ou des musées, pour justement le mettre dans une situation peut-être un peu embarrassante, mais qui peut le changer son quotidien, voilà.
Moins polémique, mais aussi énormément d'engouement autour d'une autre œuvre d'art, un tableau inédit de Gustave Courbet qui représente un paysage jurassien qui a été légué au canton fin août. Ironiquement, Gustave Courbet qui est également connu pour avoir peint l'origine du monde. Sur ce tableau, il y a eu un engouement, une sorte de chasse au trésor qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux pour retrouver l'endroit où a été peint le tableau dans la région. Là, aujourd'hui, comment vous interprétez en 2017 l'engouement du public pour un tableau bucolique du 19e siècle aussi prestigieux soit son auteur?
Écoutez, alors ça, cette histoire est complètement inattendue. Hein. Ce que je trouve important, c'est que les gens s'approprient les œuvres d'art. On entend souvent, trop souvent dire que l'art est élitaire, qu'on n'y comprend rien, qu'il exclut le public plus qu'il ne le questionne, etc. Et puis là, effectivement, là, on a affaire à un paysage tout à fait, je dirais, assez familier, assez traditionnel, hein, même si c'est un Courbet. Et puis, voilà, c'est un peu comme quand on fait nos vieilles armoires ou nos albums photos, on retrouve quelque chose, puis on essaie de trouver l'identité de ce lieu, voilà, est-ce qu'il est reconnaissable, qu'est-ce que c'est, etc. Donc ce qui est intéressant là, c'est que les Jurassiens surtout se sont emparés de ce tableau alors qu'il n'est même pas encore visible dans un musée, hein, très peu l'ont vu en fait, mais en tout cas de l'image de ce tableau, pour se dire c'est où. Et c'est peut-être la question qu'on s'est le moins posée quand on a fait justement toutes les études sur ce tableau, c'était le c'est où. Et voilà, c'est vrai que ça a créé un engouement qui est un peu justement cette envie d'aller voir sur place, de se projeter dans le regard du peintre en se disant bah, tiens, il est peut-être allé là, non, c'est peut-être là, etc. Puis de rivaliser, de jouer un concours en fait entre internautes. Et je pense que là, les réseaux sociaux jouent un rôle très sympathique justement dans le l'établissement d'une collectivité de chercheurs. Voilà.
Pour interpeller la population, vous dites l'art doit interpeller, la population doit se sentir concernée par l'art. Les réseaux sociaux, dans un cas comme dans l'autre, hein, que ce soit à Neuchâtel ou dans le cas de ce tableau de Gustave Courbet, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle. Est-ce qu'il y a des projets actuellement en lien avec les réseaux sociaux pour les utiliser davantage pour promouvoir l'art ?
Pas ma connaissance. Il y a d'abord ce qui est contradictoire, c'est que là on a affaire. Les réseaux sociaux jouent un rôle, je dirais, un peu contradictoire, hein, puisque d'une part, par rapport à l'art, je dirais, des représentations sexuelles, on sait aussi très bien que les tableaux qui représentent un organe sexuel ont longtemps été censurés sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Par exemple, l'Origine du Monde ne passe pas sur Facebook. Donc après, justement, il y a eu des discussions avec les musées, etc. Il faut partir du principe que c'est une œuvre d'art et que il y a une distinction à faire entre une image et une œuvre d'art. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux doivent pouvoir véhiculer ces images. Il y a un consortium notamment au musée d'Orsay qui a fait en sorte qu'on puisse prendre des photos au musée d'Orsay pour pouvoir les mettre sur le web et notamment sur les réseaux sociaux pour justement véhiculer l'art. Mais il ne faut pas oublier que ça ne reste que l'image d'une œuvre d'art, hein, que ce soit sur le réseau social ou dans un journal, et que le mieux c'est quand même d'être en face de la toile, et c'est ce qu'on peut encourager le public à aller dans ces musées, à aller confronter son propre regard à l'œuvre d'art, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on le regarde le mieux. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que par rapport au Courbet, les gens ne l'ont pas forcément bien regardé. Ils ont des certitudes, ils savent exactement quel est l'endroit que ça représente. Ils vont voir les journaux pour essayer de faire valoir leur point de vue. Puis, parfois, ça tient pas. Voilà, il y a des fausses pistes. Et puis, on montre justement que, par exemple, le ruisseau passe devant la montagne et pas entre les deux montagnes. C'est des choses qui nous aident à regarder justement une œuvre d'art. Et je trouve que ça, c'est très positif, parce que souvent, on passe beaucoup trop vite, comme on le fait d'ailleurs pour beaucoup de choses dans la vie maintenant. Le rythme de la vie actuelle n'est absolument pas fait pour regarder une œuvre d'art et passer un quart d'heure devant, quoi.
Très rapidement, et après on va devoir conclure, une dernière question pour revenir aux œuvres dans l'espace public, notamment l'exemple du rond-point à Neuchâtel. Aller dans un musée, c'est une démarche qui est faite par quelqu'un. Poser quelque chose dans la rue, c'est entre guillemets, c'est ce qui est parfois reproché, imposer une œuvre d'art à la population. Est-ce que là, il y a une politique en la matière qui existe dans le canton du Jura par rapport aux œuvres qu'on installe ?
Bien sûr qu'on essaie de se dire, on va essayer justement, D'abord, il y a tous les bâtiments publics, en fait, ont même l'obligation, en fait, de d'avoir un caractère artistique dans leur dans leur construction. Et ça, c'est important aussi, hein, de pouvoir prévoir une partie du budget justement de construction d'un bâtiment public pour une œuvre d'art. Et donc ça, je pense que c'est déjà une démarche très importante pour pouvoir aller vers le public et avoir un accès direct à l'œuvre d'art sans passer justement par le musée. Merci. C'est un exemple, par exemple.
On devra conclure, il est 19h, l'heure du flash. Merci beaucoup Christine Salvadé d'avoir été avec nous. Bonne soirée.
Merci à vous, au revoir.